Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Les Insoumis en plein marathon de l'Union de la Gauche pour les législatives. Les tractations s'éternisent avec les socialistes. Les communistes sont attendus à la table. On sera sur place dans un instant. Et puis, après ce journal, je recevrai Yann Brossat, le porte-parole du Parti communiste. S'il n'avait pas tiré, il aurait pu être tué des policiers dans la rue ce lundi contre la mise en examen d'un collègue pour homicide volontaire après les tirs mortels sur le Pont Neuf à Paris. Washington accuse Moscou de préparer l'annexion de l'Est de l'Ukraine avec un référendum prétexte. Dans ce journal, les miraculés de Mariupol, une centaine de femmes et d'enfants évacués de la ville martyre. L'épidémie de Covid hors de contrôle à Shanghai, malgré un confinement implacable, même des cas négatifs sont désormais placé de force en quarantaine. On sera avec notre correspondant en Chine. Le temps demain sera mitigé, nuageux au sud, de belles éclaircies au nord. Enfin, coup d'œil sur les unes de la presse demain mardi, avant de retrouver la Libre Antenne à 22h30.
Europe 1.
La nuit va être longue au siège des Insoumis qui continuent de tisser l'union de la gauche en vue des législatives. Leur nouvelle union populaire écologique et sociale a déjà accueilli un nouveau membre, les écologistes de ELV, mais les discussions n'ont toujours pas abouti, ni avec les communistes, ni avec les socialistes. Alexis de La Fontaine, vous êtes au siège parisien de la France Insoumise. Plus de 10 heures de négociations déjà. Alors pourquoi c'est aussi long ?
Eh bien, les blocages persistent. Voilà la petite phrase lâchée par les négociateurs socialistes juste avant d'aller dîner vers 21h. Chacun est allé manger séparément dans les restaurants du quartier avant de revenir au compte-gouttes dans quelques minutes pour reprendre les discussions avec un nouvel entrant dans le jeu, le Parti communiste. C'est donc une étape historique. Pour la première fois, on aura une réunion entre les insoumis, les écologistes, les socialistes et les communistes cette nuit, avec dans l'espoir d'aboutir enfin à l'union de la gauche au petit matin. Mais pour cela, il faudra d'abord régler l'épineux problème du partage des sièges, point crucial dans ces négociations.
Alexis de La Fontaine au siège de la France Insoumise dans le 10e arrondissement de Paris pour Europe 1. Pas facile donc de trouver un accord en quelques heures quand on ne se parlait plus depuis 10 ans. Cette formule d'Olivier Faure, patron du PS, illustre bien la difficulté de raboter les points de blocage quand on a le chrono de la législative, des législatives pour pression. Le PS a déjà fait 2 pas dans la direction des Insoumis sur la retraite à 60 ans et sur le SMIC à 1 400 € net. Il se prépare aussi à faire une croix en revanche sur une partie de sa ligne historique, Alexandre Chauveau.
Oui, et on peut parler d'un renoncement sur plusieurs sujets, au premier rang desquels l'Europe, puisque l'accord prévoit, je cite, « la désobéissance aux traités européens ». On n'est pas anti-européen, mais pragmatique, précise un cadre du PS. Mais cela représente néanmoins une rupture radicale avec la doctrine et l'histoire du Parti socialiste, historiquement pro-européen, de François Mitterrand à François Hollande, en passant par Jacques Delors ou Pierre Moscovici. Ce serait tout simplement la première fois qu'un parti de gouvernement inscrirait dans son programme la non-application des traités. L'autre importante concession, c'est l'abrogation de la loi El Khomri, mesure proposée par la France insoumise et sur laquelle le PS s'est aligné. Concession parce que la loi avait été votée sous le quinquennat de François Hollande et par le gouvernement de Manuel Valls. Enfin, l'accord entre les deux partis prévoit l'abrogation de la loi séparatisme votée l'an dernier, loi qui s'inscrit dans le prolongement des lois antiterroristes votées là encore sous François Hollande. Les insoumis s'y étaient unanimement opposés, les socialistes, eux, s'étaient abstenus.
Alexandre Chauveau, ces accords à gauche, passés ou en voie d'être passés, sont très critiqués par la majorité présidentielle. Plusieurs membres de La République En Marche accusent les écologistes et les socialistes de renier leurs convictions. Éric Zemmour, lui, est très tenté par une candidature aux législatives. Il se décidera dans quelques jours. L'ex-candidat à la présidentielle regarde les circonscriptions où il a fait plus de 20%. Il évoque le Var ou Paris. Sur BFM TV, Éric Zemmour reconnaît son échec et sa déception après ses 7% au premier tour de la présidentielle. Il estime que c'est à cause de Vladimir Poutine et de la guerre en Ukraine. Plus d'un millier de policiers ont manifesté ce lundi dans une quarantaine de villes à l'appel de plusieurs syndicats. À l'origine de leur colère, la mise en examen pour homicide volontaire de leur jeune collègue à Paris le 24 avril dernier. C'était le soir même du second tour. Ce policier a tué 2 automobilistes qui auraient tenté de se soustraire à un contrôle en fonçant sur la patrouille. À Lille, les policiers manifestants s'étaient rassemblés devant le palais de justice. Reportage Maximilien Carlier.
Coupable d'être flic, voici ce qu'on peut lire sur des pancartes portées par des policiers lillois en colère.
On se demande si être flic maintenant, c'est pas une circonstance aggravante. Policier, c'est le seul métier, ou même dans la tombe, vous êtes encore le flic.
Une nouvelle fois, l'un des nôtres se trouve sur le banc des accusés.
Prise de parole, marseillaise, tous sont venus apporter du soutien à leur collègue de 24 ans. Sa mise en examen pour homicide volontaire est incompréhensible. Arnaud Boutelier, secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance.
Institutionnellement, c'est la cour d'assises est condamnable de 30 ans de prison. Il ne s'est pas levé le matin pour dire qu'il a tué quelqu'un. Il n'y a pas besoin de dire qu'il y a eu homicide volontaire.
Notre collègue n'est pas un meurtrier, même s'il doit y avoir une enquête selon lui. Et hors de question d'évoquer une rupture avec la justice. Michael Debauchère, délégué UNSA Police.
C'est symbolique, allumer une épée d'Amoclès alors qu'il a fait son travail. Et sincèrement, il n'a fait que son travail. Alors on déplore les morts, hein, bien sûr. Hein. Ça, c'est... On voudrait que ça se passe autrement. Mais à un moment, on fait quoi? On répond que des smarties.
Car des refus d'obtempérer, il y en a toutes les 20-30 minutes en France, selon lui. Si à chaque fois on est remis en cause dans un cadre légal, autant arrêter la sécurité, insiste-t-il, et utiliser notre uniforme pour parader. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
La situation en Ukraine à présent. Washington accuse la Russie de vouloir annexer l'est du pays en organisant mi-mai des référendums dans les territoires de Donetsk et Lugansk. Sur les rives de la mer Noire, un peu plus au sud, ils sont une centaine à avoir échappé à l'enfer de Mariupol. Ce tout premier groupe de civils ukrainiens a pu être évacué ce week-end du complexe industriel Azovstal, dernière poche de résistance de cette ville martyre. Une centaine de femmes et d'enfants qui sont attendus ce soir à Zaporijjia, une ville à l'écart du front, Marion Gauthier, à 200 km de Mariupol.
Oui, plus de 24 heures pour faire 200 km. De nombreux checkpoints coupent la route. Une vidéo tournée par des soldats ukrainiens montre le départ de ces civils emmitouflés. Ils escaladent des montagnes de débris pour sortir de terre et de Mariupol dans des bus en tôle bondés. Enfin, s'est réjoui hier soir le président Zelensky. C'est la première fois qu'un cessez-le-feu est respecté pour mettre en place un couloir humanitaire. Calme fragile, aucune précision sur les autres évacuations prévues aujourd'hui. Des centaines de civils et de militaires restent encore terrés sous les décombres d'Azovstal.
Ouais, ce lundi, Marion, l'armée ukrainienne a annoncé avoir coulé deux navires patrouilleurs russes sur la mer Noire.
Oui, deux navettes parmi les plus rapides de la marine russe. Les Raptors, ce sont leurs noms, sont partis rejoindre le Moskva, a annoncé un représentant de l'armée ukrainienne. Le Moskva, vous savez, c'est ce navire amiral russe que l'Ukraine assure avoir coulé mi-avril. Une référence moqueuse donc, mais des inquiétudes pour la suite.
Un groupe de navires avec des porteurs de missiles de croisière continue d'être déployé dans la partie nord-ouest de la mer Noire. La probabilité de frappe de missiles contre l'Ukraine et la région d'Odessa en particulier reste élevée.
La situation est difficile. A reconnu Kiev, qui s'attend dans les prochains jours à une intensification des bombardements.
Marion Gauthier, un adolescent a été tué dans une nouvelle frappe russe sur un immeuble à Odessa, au bord de la mer Noire. Un autre enfant a été transporté à l'hôpital. Les conséquences économiques de la guerre, les matières premières normalement importées de Russie et d'Ukraine font flamber les prix de l'alimentation. La tonne d'engrais en particulier dépasse les 1000 euros la tonne. C'est 4 fois plus qu'il y a un an, ce qui inquiète nos agriculteurs. Or, le malheur des uns pourrait bien faire le bonheur des autres. La filière bio française pourrait ainsi bénéficier d'un effet d'aubaine car elle est moins dépendante des produits d'Europe de l'Est, Maud Descamps.
Oui, c'est en tout cas la thèse défendue par les producteurs bio. La crise ukrainienne met en avant la dépendance de l'agriculture conventionnelle aux produits importés, donc les engrais, alors que la production bio, elle, n'est pas impactée. Pour la spécialiste de la consommation Émilie Maillard, il est vrai que l'inflation touchera moins l'agriculture biologique.
L'inflation, elle est plutôt aujourd'hui plus forte sur les produits non bio que sur les produits bio. La nature des engrais qui sont utilisés pour l'agriculture bio sont beaucoup moins consommateurs d'énergie, donc ce qui explique le fait que ce soit moins inflationniste.
Alors les producteurs bio misent donc sur la hausse des prix des fruits et légumes non bio pour trouver de nouveaux clients. Loïc Madeline est le secrétaire national de la Fédération nationale d'agriculture biologique.
On ne sait pas trop demain ce que fera le consommateur dans son acte d'achat. Peut-être que finalement, il privilégiera le produit bio au déficit du produit conventionnel à tarif égal.
Alors néanmoins, les ventes de produits bio hors fruits et légumes sont plutôt en baisse depuis le début de l'année. Moins 4% en janvier 2022 par rapport à janvier 2021, avec des consommateurs qui se tournent davantage vers les marques premier prix.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1. La Russie exclue de l'Euro 2022 de football féminin, annonce ce soir l'UEFA. Elle est remplacée par le Portugal. Les clubs russes seront aussi exclus de la prochaine Ligue des champions 2022-2023 qui démarrera en juillet.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Depuis 2 ans, les Chinois étaient relativement épargnés par la crise sanitaire. Mais le pays affronte en ce moment sa pire flambée épidémique depuis le printemps 2020. On part maintenant pour Shanghai, cette ville gigantesque de 25 millions d'habitants, totalement submergée par le Covid. Les autorités y imposent un confinement ultra strict. Même des Chinois testés négatifs sont maintenant envoyés de force en quarantaine à Shanghai pour Europe 1, Sébastien Lebelzik.
C'est l'une des dizaines de vidéos qui tournent en boucle en ce moment sur les réseaux sociaux. On y voit des agents du gouvernement en tenue de protection anti-Covid défoncer la porte d'un appartement dans la ville de Shanghai. Ils embarquent ensuite de force toute la famille dans des bus, direction l'un des centres de quarantaine où sont déjà enfermés plus de 200 000 personnes. Jusque-là, seuls les asymptomatiques étaient ainsi isolés, mais cette famille n'avait pas le résultat des tests au moment de son arrestation. La mère hurle son indignation.
On a refait un test, mais le résultat n'est pas sorti.
Mais qu'importe, même négatif au Covid, de plus en plus de personnes affirment avoir dû quitter leur appartement pour la seule raison que certains habitants de leur quartier seraient malades. Shanghai, en confinement depuis plus d'un mois, ne voit toujours pas le bout du tunnel. La ville est fermée, les habitants manquent de nourriture, de médicaments et surtout, ils vivent dans la crainte d'être envoyés de force dans ces centres où des milliers de lits de camp sont alignés, sans douche et sans aucune intimité. Une situation qui semble de plus en plus hors de contrôle et qui se répète dans tout le pays. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Les ravages de la grippe aviaire dans les élevages français, 16 millions de volailles abattues en France depuis le début de l'épizootie qui commence à décélérer. Le pic épidémique a été franchi à la fin du mois de mars. Le SMIC est désormais à 1302 € net par mois depuis hier 1er mai. Plus qu'une revalorisation, c'est plutôt un alignement sur l'inflation. Ça représente 33 € de plus que le mois dernier, 72 € de plus qu'il y a un an. Voilà donc une bonne nouvelle pour les bas salaires, mais certaines entreprises fragiles craignent pour leur avenir, comme l'a confié à Carole Ferry, cette responsable d'une entreprise d'aide à domicile à Limoges.
Les auxiliaires de vie, on est sur des bas salaires, donc elles méritent amplement cette revalorisation.
Là-dessus, Cathy Meunier n'a aucun doute. Le travail de ces 130 aides à domicile mérite sans conteste d'être revalorisé, sauf qu'elle gère une entreprise privée à Limoges et elle a fait ses calculs. Aujourd'hui, elle ne voit pas comment elle peut absorber cette hausse.
Nous, on a calculé la part revalorisation à partir du 1er mai sur l'année, sur un an, ça nous coûtera 52 000 €. Sachant que l'année dernière, on a fait un résultat net de 32 000 €. Donc, je ne sais pas comment je vais le financer, car dans notre profession, on a un encadrement des prix. Nos tarifs ne sont pas libres, on n'a pas le droit de les augmenter comme bon nous semble. À cela se rajoute aussi la hausse de l'essence. Comme on fait de l'aide à domicile, on a revalorisé les indemnités kilométriques des auxiliaires de vie. Donc, pour l'instant, on est dans le flou le plus total. Donc, je ne sais pas comment je vais financer tout ça.
Seule solution, selon elle, que les tarifs facturés aux particuliers soient également revalorisés, ainsi que les aides accordé aux plus fragiles.
Mais Carole Ferry, parmi les changements qui interviennent traditionnellement au 1er mai, il en est un qui ne va pas faire plaisir à toutes celles et ceux d'entre vous qui voulaient renforcer l'isolation de votre logement. Le gouvernement a effectivement baissé les aides CEE pour certificat d'économie d'énergie, le dispositif apportant du succès. Arthur Pereira.
Oui, chaque année, ce sont près de 400 000 foyers qui bénéficient de ces aides liées au certificat d'économie d'énergie. Calculé en fonction du revenu, il permet d'aider les ménages les plus modestes à réaliser des travaux de rénovation énergétique. Ces aides revues à la baisse inquiètent déjà les professionnels. Arthur Bernago est directeur des opérations chez Helio, une entreprise en maîtrise de l'énergie.
Des clients et des professionnels qui nous posent beaucoup de questions. Là, c'est un petit peu le branle-bas de combat puisqu'on est le lundi au lendemain de cette annonce. Donc oui, ça va sûrement sous-entendre quelques clients. On ne peut pas encore le chiffrer, mais qui pourraient se désengager de ces travaux puisque leur reste à charge ne sera plus le même.
Une baisse qui intervient aussi au plus mauvais moment. Avec la guerre en Ukraine, les prix du gaz et de l'électricité explosent. Le ministère de la Transition écologique souhaite en fait toucher un plus grand nombre de familles. Le problème, c'est que l'enveloppe, elle, n'a pas bougé. Donc mécaniquement, le montant des aides par famille diminue. Concernant MaPrimeRénov, la deuxième aide, le montant, lui, reste inchangé.
Arthur Pereira. La semaine dernière, sur Europe 1, on vous parlait de cette canicule record qui écrase 1 milliard d'Indiens, 50 degrés à l'ombre dans le nord de l'Inde. Et bien plus près de nous, en Suisse, les parlementaires ont été priés aujourd'hui de suivre une formation sur le réchauffement climatique. Ils ont été briefés ce lundi par des experts du GIEC, Louise Salé.
Effectivement, c'est une initiative toute nouvelle. En fait, tout est parti d'un père de famille suisse, Guillermo Fernandez. Il a entamé cet automne une grève de la faim à Berne en s'installant devant le Parlement fédéral pour protester. Pour lui, le réchauffement climatique ne guide pas assez les décisions politiques de son pays. C'est un sujet qui devrait être hissé au premier rang des préoccupations. « Je suis un papa terrorisé », avait-il alors scandé. Pour arrêter sa grève de la faim, il a réclamé une forme pour les députés suisses sur l'urgence climatique. Une demande finalement acceptée au bout de 39 jours et après avoir perdu 20 kilos. Promesse tenue donc, le cours s'est tenu aujourd'hui. Il a duré 3 heures. En revanche, seulement un tiers des députés étaient présents à cet événement.
Louise Salé, ce qui nous amène naturellement à la météo.
La météo avec Murprotec, leader de la lutte contre l'humidité et la pollution de l'air intérieur. Diagnostic complet actuellement offert. Toutes les infos sur murprotec.fr.
Le temps demain, Marlène Duret, c'est une bonne nouvelle pour la moitié nord, je crois, c'est le retour du soleil.
Oui, oui, beaucoup plus de soleil en tout cas, Alexandre. Il faut dire que le pays sera coupé en deux demain matin, avec honneur d'une ligne reliant Marennes à Lons-le-Saunier, autrement dit la Charente-Maritime au Jura. Vous tirez un trait, vous reliez les points, ça nous fait une moitié nord. De belles éclaircies, un ressenti parfois frais en raison du vent et quelques plaques de grisaille au lever du jour qui se dissiperont assez vite. On en trouvera d'ailleurs près de la frontière belge et en Bretagne. Au sud de cette ligne, eh bien le ciel sera bien chargé demain matin avec encore quelques petites pluies à proximité des Pyrénées. La Corse restera à l'écart avec simplement un voile nuageux assez dense. Et puis l'après-midi, les belles éclaircies, le soleil se maintiendra des Hauts-de-France et des Ardennes à la Normandie et à l'Île-de-France, ainsi que de la Bretagne au Pays de la Loire, au centre-Val de Loire, jusqu'en région bordelaise. Il fera mieux l'après-midi, il fera plus ensoleillé l'après-midi que le matin du côté de Bordeaux. Et dans toutes les autres régions, le temps va devenir instable avec un risque d'averse et même d'orage sur le relief. Donc, disons, du sud-ouest aux frontières de l'est, seul le littoral méditerranéen restera épargné. Au meilleur de la journée, les températures, vous savez où elles seront le plus frais ? Où il fera le plus frais, à votre avis ?
Je suis très mauvais à ce genre de devinette.
Près de la Manche, c'est pas une. C'est pas nouveauté en fait. Hein. 13 à 18 de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais avec 13 à Dunkerque, 17 à Lille, 18 à Brest. Et puis ailleurs, allez, on prévoit 17 degrés du Pays Basque au Béarn et partout ailleurs, 19 à 23 avec 20 degrés à Paris, à Clermont-Ferrand, Toulouse et Nice, 21 à Mulhouse, 22 à Lyon et 23 degrés à Nîmes, Montélimar et Bordeaux.
Merci Marlène Duret, on vous retrouve tout à l'heure à minuit sur Europe 1.
Europe 1. Alexandre Lemaire.
Tape à Wall Street avec Didier Hamot. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
De boursier.com. Wall Street qui poursuit son mouvement de repli hein, en attendant une nouvelle hausse des taux de la réserve fédérale.
Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ça s'est retourné il y a quelques minutes. Hein. Là c'est vraiment tout chaud. En fait c'est très très nerveux, très irrégulier sur les marchés en ce moment. Ça monte, ça baisse, ça remonte. Là ça rebondit un petit peu sur le Dow Jones. C'est maigre hein, pour l'instant, plus 0,26%. Ça avait beaucoup baissé vendredi, 33 061 points. C'est un petit peu plus net sur le Nasdaq qui reprend 1,63%, 12 536 points. Les marchés attendent effectivement la réunion de la Banque centrale américaine demain et mercredi qui devrait déboucher sur une hausse des taux de l'ordre de 0,5 points. Donc pour tenter de contenir le regain d'inflation qui se confirme jour après jour. Le pétrole hésite autour des 104 dollars le baril. Il y a quelques valeurs qui remontent, donc qui se reprennent. Ce n'est pas très spectaculaire. Apple plus 0,2% à 157,96 $. Amazon plus 0,2% aussi. On a Microsoft qui reprend quand même 2,5% et Tesla qui remonte de 3,7%, 903 $ ce soir. Il y a toujours l'euro qui est faible, 1,05 face au dollar.
La bourse de Paris commence aussi la semaine en forte baisse.
Oui, alors là, ça a vraiment baissé, hein, moins 1,66%, 6 425 points. La purge a été très nette sur les grandes valeurs. On a Orpea, moins 4,5%, avec l'arrivée d'un nouveau patron. On a Alten qui cède 4%, et puis tout le secteur pétrolier sous pression. Vallourec, moins 3,5%, avec d'autres valeurs parapétrolières comme CGG, moins 1,1%, Technip, moins 0,8%, et puis Total Energy qui perd 0,5%, 46,98 €.
Exception du jour, le secteur des jeux vidéo qui se distingue.
Oui, ce secteur des jeux vidéo, décidément très actif, qui remonte après la nouvelle opération de rachat aux États-Unis. Il s'agit de MGM qui reprend le groupe suédois de jeux en ligne Leo Vegas pour plus de 600 millions de dollars. Évidemment, ça donne des idées aux autres valeurs donc, qui s'agitent en Europe. Big Ben reprend 2%, Atari plus 1,3%, Ubisoft est ferme à 42,77€ ce soir. Les autres places financières sont en baisse en Europe, moins 1% sur le DAX à Francfort, moins 1,9% à Madrid, moins 2,3% à Amsterdam et donc le CAC 40 a perdu 1,66%, 6 425 points.
Merci Didier Hamo.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Les tractations battent leur plein à gauche. On vous en parlait dans le journal en vue d'un accord pour les législatives. Notre invité politique sur Europe 1, Yann Brossat, bonsoir. Yann Brossat, m'entendez-vous ?
Bonsoir, je vous entends parfaitement.
Bonsoir, porte-parole du Parti communiste français. Le PC toujours en pourparlers hein, avec la France insoumise en vue du plus large accord possible à gauche. Elles vont reprendre ce soir hein, les discussions entre vous, les communistes, et les insoumis.
Absolument, elles ont repris depuis quelques minutes, depuis 22h très exactement, avec l'objectif d'aboutir le plus vite possible. Notre souhait à Fabien Roussel et à l'ensemble de l'équipe qui est en discussion en ce moment, c'est que nous puissions signer rapidement et nous présenter unis à l'occasion des élections législatives.
Fabien Roussel disait espérer un accord aujourd'hui. Ça veut dire que la nuit va être longue là, si les discussions viennent tout juste de reprendre, comme vous nous le dites.
Sans doute, mais en tout cas, les efforts de part et d'autre, je crois, sont au rendez-vous. Nous avons une volonté extrêmement claire. Notre volonté, c'est le rassemblement. Nous sommes convaincus que la gauche peut gagner à l'occasion de ce troisième tour de l'élection présidentielle que sont les élections législatives. Nous le devons à des millions d'électeurs de gauche qui ont envie que ça change dans notre pays, à des millions de salariés qui en ont ras-le-bol, des bas salaires, des difficultés de pouvoir d'achat, des petites retraites. Et donc nous avons cette obligation d'arriver à l'union. En tout cas, nous le voulons et nous allons tout faire pour que ça puisse aboutir très très vite.
Fabien Roussel dit il n'y a pas de plan B. Hein. Ça veut dire quoi ? Vous êtes condamné à vous entendre avec les insoumis de Jean-Luc Mélenchon, quoi qu'il en coûte.
Mais ça n'est pas une condamnation, c'est une chance. Et je pense que c'est ce que les hommes et les femmes de gauche attendent dans notre pays. Il y a d'ailleurs une chose qu'on n'a pas relevée, pas suffisamment en tout cas, lors de la dernière élection présidentielle, c'est que la gauche a progressé. Elle a progressé de 4 points par rapport à 2017. Et donc, la gauche, ce sont des millions d'hommes et de femmes qui veulent que ça change. Et pour que ça change, il faut effectivement se rassembler. Je ne le vois pas comme une contrainte. Je le vois comme quelque chose de très important et de très positif pour notre peuple. Et je sais que beaucoup, beaucoup de gens attendent ça. Je l'ai encore vu hier à l'occasion des mobilisations du 1er mai. Mmh. Et donc, nous avons l'obligation d'y arriver.
L'idée, c'est quoi ce soir, cette nuit ? On ne quitte pas la table, on ne quitte plus la table tant qu'un accord n'est pas trouvé. On va vers une annonce demain matin entre communistes et insoumis ?
On verra si nous y arrivons cette nuit ou s'il faut continuer les discussions demain. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir aboutir et que de toute façon, les élections législatives approchent à grands pas. C'est le 12 et 19 juin prochain. Il y a besoin de déposer les professions de foi, de déclarer les candidatures. Et donc, il faut que dans les heures qui viennent, l'accord soit fait. Mais je suis très confiant et très convaincu en tout cas de la volonté du Parti communiste, de Fabien Roussel d'y arriver. Donc on va y arriver.
Ouais, vous avez fait des concessions hein, déjà. Vous êtes prêt à reculer sur le nucléaire. Je rappelle que vous souhaitiez à la base construire au moins 6 nouveaux réacteurs EPR et qu'à l'inverse, les insoumis, eux, veulent en sortir de cette énergie nucléaire. Ça, c'est quelque chose sur laquelle vous avez reculé.
Non, le Parti communiste n'a reculé sur rien et ne renonce en rien à ses convictions. Nous sommes favorables à un mix énergétique. Nous sommes convaincus qu'on a besoin du nucléaire. C'est que si on veut protéger le pouvoir d'achat des Français, que si on veut garantir notre indépendance énergétique, on a besoin du nucléaire. Cela dit, est-ce que pour autant, parce que nous sommes favorables au nucléaire, il serait impossible de s'allier avec des gens qui ont d'autres convictions ? Je ne le pense pas. On doit être capable de se rassembler. Et à l'intérieur de ce rassemblement, à l'intérieur de cette union, le Parti communiste continuera à plaider en faveur du nucléaire. Simplement, vous savez, il y a des milliers de communes de France dans lesquelles la gauche est unie. Ça ne veut pas dire qu'on pense tous la même chose sur tous les sujets, mais ça veut dire que sur l'essentiel, on est capable de se mettre d'accord. Et en ce moment, l'essentiel, c'est la question de la retraite à 60 ans, c'est la question de l'augmentation des salaires. Et sur ces sujets-là, il y a, je crois, une convergence de vues qui est très nette.
Alors, sur le SMIC, justement, l'augmentation des salaires, vous proposiez de le porter à 1 500 euros net. Finalement, vous vous alignez sur les 1 400 euros moins ambitieux des insoumis.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a besoin d'augmenter le SMIC et que le gouvernement actuel s'y refuse puisqu'il se cantonne à l'obligation légale. Et donc, il y a besoin d'augmenter les salaires, de les augmenter de manière très nette, d'augmenter le SMIC, d'augmenter le niveau des pensions de retraite qui sont trop faibles. Et ce qui est sûr, c'est que si demain il y a un gouvernement de gauche, il n'y aura pas seulement cette minable augmentation légale qui est une contrainte que le gouvernement a respectée. Non, on a besoin d'aller au-delà et au moins avec un gouvernement de gauche, ça changera et ça donnera de l'air à des milliers, des millions de salariés qui en ce moment n'arrivent pas à boucler leur fin de mois.
Qu'est-ce qui coince encore entre vous là ? C'est le nombre de circonscriptions par exemple qui seraient réservées à des candidats communistes pour ces législatives ? Il n'y en a pas assez ?
Il y a deux choses dans la discussion. Il y a d'abord des éléments de fond. Vous en avez évoqué un certain nombre, besoin de se mettre d'accord sur un certain nombre de sujets qui concernent la vie quotidienne des Français, notamment l'augmentation du SMIC. Et puis, il y a aussi des sujets qui concernent effectivement la représentation de chaque formation politique. Si on a envie d'avoir un rassemblement qui fonctionne, c'est bien sûr tenir compte du rapport de force qui est sorti de l'élection présidentielle. Il y a aussi besoin que chaque force soit respectée et notamment que le Parti communiste continue à avoir un groupe à l'Assemblée nationale parce que nous avons fait la preuve de notre utilité. Vous savez, ce sont les députés communistes qui, grâce à leur groupe, ont obtenu la revalorisation des retraites agricoles. Ils l'ont obtenue alors même qu'ils étaient dans l'opposition. Donc on a besoin que les communistes continuent d'avoir un groupe à l'Assemblée.
Oui, si j'ai bien suivi Yann Brossat, alors déjà un groupe à l'Assemblée, c'est 15 députés minimum. Or, vous estimez que la cinquantaine de circonscriptions qui vous sont proposées par la France insoumise ne comprennent pas assez de circonscriptions, entre guillemets, gagnables pour vous garantir un groupe à l'Assemblée pour la prochaine législature.
Oui, tout ça fait l'objet des discussions qui ont lieu en ce moment. Mais ma conviction, c'est que quand on a envie d'y arriver, on y arrive. C'est aussi une question de volonté. Donc je n'ai pas de doute sur le fait que la copie qui sera rendue sera une copie propre et que les conditions du rassemblement seront remplies dans la journée de demain. Si ce n'est pas le cas cette nuit, ce sera dans la journée de demain.
Fabien Roussel, il dit vouloir cette grande coalition de la gauche pour enfin prendre notre revanche sur l'élection présidentielle. C'est l'esprit revanchard qui vous anime au Parti communiste ?
C'est la conviction que notre peuple mérite mieux que cette élection présidentielle. Vous savez, les Français, quand on les interrogeait quelques mois avant l'élection présidentielle, ils disaient qu'ils ne voulaient pas d'un second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron.
Oui, mais finalement, on ne prend pas, Yann Brossat, on ne prend pas une revanche sur le verdict des urnes.
De toute façon, ce sont les électeurs qui décident. Et à l'occasion des élections législatives, ce sont les Français qui décideront en mettant leur bulletin dans l'urne. Ce sont eux qui auront le dernier mot. En tout cas, ce que je sais, c'est que beaucoup de Français, j'en fais partie, qui ont voté pour Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle, n'ont en aucun cas validé son projet. Ils ont voté pour lui parce qu'ils ne voulaient pas de Marine Le Pen et parce qu'ils ne voulaient pas que l'extrême droite fasse main basse sur la République. Ils n'ont pas voté pour la retraite à 65 ans. Et donc, tous ces Français qui ont, par la contrainte d'une certaine manière, fait barrage à l'extrême droite en utilisant le bulletin Macron, ils ont la possibilité d'exprimer leurs convictions à l'élection législative. Et c'est ce que Fabien Roussel a voulu dire à l'occasion de cette interview.
Il y a quand même une question qu'on se pose. Pourquoi vous parvenez subitement à sceller des accords ? Pourquoi ne pas l'avoir fait avant la présidentielle, précisément ?
Je comprends évidemment qu'on se pose cette question. Vous admettrez que ce n'est pas tout à fait le même mode de scrutin. Une élection présidentielle, c'est une candidate, c'est un candidat. Et c'est tout. À l'élection législative, les choses sont très différentes. C'est justement ce qui fait que les discussions portent en ce moment sur ce sujet. C'est 577 circonscriptions et donc ça permet une représentation beaucoup plus large et beaucoup plus diverse de la gauche. Et c'est, je crois, ce que nous sommes en train de réaliser. C'est ce qui fait qu'à mon sens, plus facile de s'unir aux élections législatives qu'à l'élection présidentielle. C'est plus facile de s'unir autour de 577 circonscriptions qu'autour d'un seul homme ou d'une seule femme.
Avec cette union en cours de la gauche, Yann Brossat, vous attirez des critiques de la majorité présidentielle. Elles sont pour l'instant dirigées surtout vers Europe Écologie Les Verts qui ont scellé un accord. Ils sont accusés de trahir leurs convictions. Vous sentez, c'est quoi ? C'est de la fébrilité dans la majorité là ?
D'abord de la fébrilité assurément. Et quand je vois cette concentration d'attaques contre ce rassemblement qui est en train de se constituer, je me dis que décidément nous sommes sur le bon chemin. Sur la bonne voie, parce que si nous faisons peur au pouvoir actuel, c'est que nous représentons une force qui les inquiète, et tant mieux. Mais ce que je sais aussi, c'est que je n'ai pas besoin de leçons de fidélité aux convictions de la part de gens qui, pour une bonne part, sont des gens qui ont trahi leur propre camp. La République En Marche, c'est quand même l'alliance de traîtres de gauche, de traîtres de droite, de gens qui sont venus d'un peu partout. Et donc, quand je les entends faire des leçons de fidélité et de loyauté, je trouve ça assez comique. Et donc, je regarde ça avec un peu de distance et avec un peu de dérision.
Merci, merci Yann Brossat, porte-parole du Parti communiste français. Alors que ces discussions marathon se poursuivent ce soir, comme vous nous l'avez confirmé, le Parti communiste vient de rejoindre la table de la France insoumise pour probablement une longue nuit de négociations et peut-être demain matin, la nouvelle d'un accord qui serait scellé entre le Parti communiste français et la France insoumise en vue de ces législatives.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Avec les unes de la presse, demain mardi 3 mai, puisqu'on en parlait il y a un instant, si près du but, c'est la une de l'Humanité, l'accord à gauche entre les communistes et les insoumis. À l'heure où nous mettons sous presse, écrit Luma, les négociations en vue des législatives continuent entre insoumis, socialistes et communistes. À la une du Figaro, comment Mélenchon veut imposer sa loi à la gauche, à défaut d'avoir été élu président de la République, le leader de la France insoumise, écrit le Figaro, a réussi son pari de dominer totalement la gauche. Nouvelle révélation sur Carlos Ghosn à la une de Libération. 80 millions, la caisse noire de Ghosn. Libé révèle le contenu de la longue audition devant les juges de l'ex-PDG de Renault-Nissan. Carlos Ghosn aurait bénéficié d'une manne jusqu'ici tenue secrète et rétrocédée par son distributeur à Oman. À la une de la Croix, l'Europe se rue sur le gaz américain face aux menaces de Moscou de couper le robinet du gaz. L'Ukraine met à nu les faiblesses de notre voisine, l'Allemagne. C'est la une de l'opinion. Dépendance à la Russie et aux États-Unis, surexposition au commerce international, politique énergétique imprévoyante. Autant de fragilités anciennes qu'Angela Merkel n'a pas su résoudre. 22h30, vous êtes sur Europe 1. Il est grand temps de retrouver la libre antenne avec Olivier Delacroix qui a le sourire. Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher.
Le week-end a été bon Olivier.
Écoutez, il a été reposant.
Reposant.
Reposant, exactement.
Vous êtes reconstruit, vous êtes prêt pour cette nouvelle semaine
exactement,
de libre antenne.
Exactement, exactement. Je suis en pleine forme. Ben, il vaut mieux, hein, puisqu'on attaque la semaine. C'est lundi, comme vous le savez. Donc oui, mais tout va bien se passer.
Mais j'en suis certain.
Le week-end a été bon, en plus il a fait beau partout en France, donc ça nous a permis de nous balader un peu.
Vous avez pris quelques couleurs, je vois.
Oui, légèrement. Vous avez vu Florian, qui travaille avec moi
non,
aussi.
Non, pas encore. Bah,
vous allez voir, il a pris de très bonnes couleurs.
D'accord.
Il était en Normandie.
Très bien.
Voyez-vous, chez une de nos témoins d'ailleurs, Martine.
Il vous fait signe.
Voilà. Et il a pris un beau coup de soleil.
Ah oui, donc c'est plus que des couleurs, là. Non, il a cramé.
Vous voyez que ça n'est pas une légende et que l'on peut bronzer. En Normandie.
Mais bien sûr qu'on peut bronzer en Normandie. Et en voilà. Bretagne, j'en profite
bon,
pour
et vous, ça a été
très bien, week-end ensoleillé aussi
bon
également.
Un petit week-end.
Voilà, au soleil.
Bon, très bien. Et j'entendais que tout le monde rallie la grande table des nouveaux amis de la gauche.
Ah oui, alors pour discuter pour l'instant. C'est signé, ça n'est pas encore fait, mais pour discuter, oui, tout le monde se rallie
c'est
à la table des insoumis.
La vie est formidable. Écoutez. Elle nous réserve plein de surprises, mon cher.
Surprises à venir, on verra.
On va voir. C'est très rigolo en tout cas, regardez et observez. Ça c'est mon avis.
C'est votre avis, bien sûr, appartient.
Qui m'appartient. Je le précise, messieurs, dames, vous qui nous écoutez, parce que voilà, vous devez tenir votre rang d'informateur, alors que moi je suis libre.
Ah ben, vous faites ce que vous voulez.
Voilà, ah ben, il ne manquerait plus que ça. Bon, à tout à l'heure, à 23h pour le flash. À tout à l'heure, Alexandre.